un jardin, on avait effectivement des arbres fruitiers et un petit peu de... Oh, je ne sais pas ce qu'on pouvait avoir dans le jardin. Moi, je me souviens, ce n'était pas un grand potager. Bon, nous étions trois enfants. Alors, il y avait des familles où il était beaucoup plus, cinq, même bien au-delà. Et donc là, je pense que le potager était vraiment d'utilité. Aussi bien,
Mon père a planté pendant 20 ans le potager. Six gamins, mais des tomates, des salades, des radis. Il avait de quoi faire, quoi.
Et c'était nécessaire, ce petit jardin, pour nourrir la famille ?
Les familles n'étaient pas forcément, des gens riches. Hein. C'était des gens très simples. Enfin, les mamans ne travaillaient pas. Donc, il n'y avait que le père qui travaillait. Enfin, et donc, un salaire qui rentrait. Et quand il y avait des familles nombreuses, c'était très difficile.
Ouais, les framboisiers, ça donnait bien.
Les groseilles à maquereau, je me rappelle.
L'eugénisme à la française. Premier épisode, une cité presque parfaite. Un documentaire de Najma Boukra et Julie Berissieu.
Ce sont de multiples jardins. Et pour essayer de comprendre pourquoi des jardins dans la cité, il faut revenir à l'idée originale.
Elsa Bonneau, historienne.
De la cité-jardin qui a été lancée au tournant du XXe siècle par un Anglais. Qui était désireux de mettre un terme à l'urbanisation galopante et d'y mettre un frein en créant des villes nouvelles qu'il dénomme cité-jardin parce que l'idée c'était de lier les avantages de la vie dans la nature à la vie urbaine. Alors, Howard, ce concepteur anglais, associe en fait à l'idée de nature et de jardin tout un réseau d'analogies qui part justement de l'idée d'une vie saine, d'une vie meilleure, d'une vie heureuse et aussi d'une égalité de tous dans un milieu naturel. Donc il renoue avec cette idée du paradis originel associé justement au jardin.
Et cette idée est voyageuse.
Cette idée est voyageuse puisque très vite l'idée de cité-jardin va essaimer en Europe et surtout trouver un terreau favorable dans les milieux qu'on appelle les milieux réformateurs de la réforme sociale qui sont tous animés par une même visée. Ils attribuent en fait au milieu de vie une importance décisive dans la réforme de la société et des modes de vie. Ce ne sont pas seulement des maisons mais... Ce sont des sociétés renouvelées. Alors, ils décrivent ces mères de famille heureuses qui portent des nourrissons bien portants dans leurs bras. Ils décrivent des habitants qui ont l'air sains, forts et bien portants. Et c'est pour ça qu'on peut à proprement parler d'oasis de verdure.
Une utopie urbaine plante son décor et ses idées nouvelles ici à Strasbourg. Et ce n'est pas un hasard. À sa tête, un maire socialiste, grand planificateur. À la Chambre des commerces, un industriel, Léon Ungemar. Et son chargé d'affaires, féru de science et d'eugénisme anglo-saxon, Alfred Dacher. Et bien sûr, des familles désireuses d'accéder à des logements. L'Alsace vient d'être rattachée à la France. La Première Guerre mondiale est terminée. Dans les rues, on parle français, mais aussi allemand et alsacien. Mais la guerre est bien visible dans les rues. Des orphelins, le claquement des béquilles, des mutilés, des veuves, toutes de noir vêtues. Et si ce projet urbain si particulier voit le jour, ici, c'est qu'on a besoin de croire à une renaissance, de miser sur les jours roses de l'avenir et la hausse de la natalité.
Bon là, vous voyez, le paysage a complètement changé avec le Parlement européen. C'est le choc des... architectures.
Devant nous, un étalement de pavillons prévu pour 160 ménages.
160 à l'origine, mais il y en a que 140 qui ont été construits. C'est en règle générale des 4 pièces ou des 5 pièces avec un grand jardin.
Jean-Claude Richet, historien.
Et tout l'équipement nécessaire, ultra moderne pour l'époque, surtout pour du logement populaire, puisque c'était... Déjà, il y a l'espace autour, c'est une vraie cité-jardin, une grande cité-jardin. Tous les bâtiments sont sur cave, buanderie et hangars incorporés, et des 4 ou 5 pièces, entre 100 et 140 mètres carrés. Dont une grande cuisine, toujours, c'est l'une des règles, puisque c'est centré sur la famille, 24 mètres carrés pour la cuisine.
Ce qu'on peut observer... c'est que les jardins sont privatifs.
Oui, tout à fait. Mais là, c'est centré sur la famille, sur le privé, sur la... Oui, puisque c'est un programme eugéniste, comment dire, une sorte de machine à produire des bébés. Il y a une vraie politique nataliste, mais on est juste dans l'après-guerre. Bon, pour pouvoir accéder à des logements, il faut avoir au moins 3 enfants, sinon on n'a pas le nombre de points nécessaires pour venir. Ça s'adresse à des familles nombreuses.
Il y a toujours beaucoup d'enfants dans ces cités.
Oui. Mais c'est fait pour.
Non, c'est
ça a été créé quand même. Enfin, disons que les personnes qui sont venues habiter ici, c'était des familles nombreuses. C'était plus que 3 enfants. On avait un jardin.
C'était selon les règles, oui, très, c'est la femme très, au foyer. Hein,
oui, ça. Voilà, et selon les règles de la femme au foyer.
Monsieur travaille et madame s'occupe des 15 gamins à la maison.
Oui. Colette et Martine, anciennes habitantes de la cité. Vos mamans travaillaient, vous ?
Non, ma mère était avec 6 gamins, elle était femme à la maison. Hein. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Avec 6 gamins, tu passais ton temps à faire tout ce qu'il y a à faire à la maison.
On va par là-bas ?
Soit on va par là-bas, non, ou alors ce qui serait intéressant, ce serait que vous alliez voir la pergola. Il m'en a parlé là.
Ah, oui.
Apparemment, il y aurait des critiques par rapport à ce fameux fondateur de la cité.
Les jardins, Ungemach. Ici, il fait bon vivre. La cité a des résultats heureux. Les familles y ont une natalité bien supérieure à la natalité française. Enfants d'une taille et d'un poids supérieurs à la moyenne. État de santé supérieur à celui de la moyenne. Le niveau d'ordre et de propreté y est supérieur à la moyenne. Voilà en grand caractère le contenu d'une affiche destinée à une exposition d'hygiène à Strasbourg en 1935. La fondation des Jardins Ungemach est une œuvre à visée eugénésique, car elle œuvre à favoriser le développement de jeunes ménages en bonne santé. Pavillons et jardins y sont loués pour un prix modique pour le temps de leur épanouissement. Ces ménages, dûment sélectionnés pour participer à ce projet urbain, savaient-ils qu'ils participaient à une expérience grandeur nature, faisant d'eux des cobayes dès qu'ils signent le bail. En aidant les familles intéressantes à se développer plus rapidement que les autres, les jardins Ungemach augmentent dans la société de demain le nombre d'éléments précieux et contribuent par là à guider l'évolution humaine vers une ascension plus rapide. Paul-André Rosenthal a retrouvé toute la généalogie de cette cité jardin jusqu'au carrefour des années 90 dans un livre remarquable, Les destins de l'eugénisme. Il s'entretient avec René Friedman sur France Culture à propos de son étonnante découverte.
Tout est parti d'un document, une affiche, et je travaillais dans l'un des cartons laissés par l'un des chercheurs de l'INEL, Louis Henry, un grand démographe, fondateur de la démographie historique. Et tout d'un coup, je tombe sur un document plié, très bizarre, très épais. Je le déplie. Et c'était une affiche, une immense affiche. Elle doit faire près de 2 mètres de haut. On appellerait ça aujourd'hui un poster destiné à être exhibé dans des grandes conférences. Et j'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'une affiche qui circulait dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, dans les expositions d'hygiène. Expositions d'hygiène, expositions internationales, qui à l'époque drainaient un public absolument considérable. À Dresde, avant la Première Guerre mondiale, drainent 5,5 millions de personnes. On est dans une époque dans laquelle l'hygiène, c'est très concret, c'est la protection contre des maladies contagieuses face auxquelles on est assez démuni. Donc je déplie cette affiche et cette affiche nous vante les résultats statistiques obtenus dans un quartier de Strasbourg, là, une cité-jardin appelée Ungemach. Et cette affiche vante statistiquement le taux de fécondité, le taux de natalité obtenu par les résidents de cette cité-jardin, la taille et le poids de leurs enfants, et elle vante également les notes d'ordre et de propreté des résidents. Sous forme statistique. Et puis surtout, elle nous parle d'un laboratoire humain et elle se termine par une petite conclusion qui donne les objectifs de cette expérience, parce que c'est pensé comme une expérience, à savoir contribuer à l'accélération de l'évolution humaine. Donc pour l'historien que je suis, travaillant en particulier sur la France du XXe siècle, cela a été une surprise radicale et une incompréhension.
Du taux de natalité à l'indice de fécondité, au poids des bébés, les évaluations et les critères sont très précis, Catherine Maurer. C'est cela qui vous interroge ?
Oui, c'est des critères physiques, hein, qui, effectivement, aujourd'hui posent problème. Enfin, on ne pourrait plus écrire des critères de ce type-là, même, entre guillemets, triple guillemets, pour des logements sociaux. C'est évident que c'est quelque chose qui pose question. C'est quand même, encore une fois, cet eugénisme positif, c'est-à-dire que on va pas choisir n'importe quelle famille. Ce qui compte, c'est la capacité à avoir des enfants et des enfants sains, évidemment. Donc, on va regarder aussi s'il y a eu éventuellement des décès à la naissance ou des maladies congénitales ou ce genre de choses. Il y a tout un questionnaire extrêmement précis, notamment sur le plan sanitaire, pour justement essayer de séparer le bon grain de l'ivraie et de promouvoir uniquement des familles considérées comme saine.
Nous sommes devant une stèle dédiée au jardin Ungemar.
Vous voulez que je vous le lise ?
Oui.
La fondation des jardins Ungemar est destinée à aider de jeunes ménages en bonne santé, désireux d'avoir des enfants et de les élever dans de bonnes conditions d'hygiène et de moralité. Donc Léon Ungemar qui a donc fondé cette cité. Enfin, fait fonder cette cité.
Est-ce que cette stèle, elle est là depuis longtemps ?
Moi, je l'ai toujours connue. C'est un endroit où on se retrouvait entre enfants. Et je pense que cette stèle, on a dû la lire et la relire. Et on s'asseyait là-dessus, sur les pierres. Et on jouait, on discutait.
Il y avait quand même des conditions particulières pour vivre dans cette cité. Ça a toujours été devant vos yeux.
Oui, mais comment vous dire, on n'avait pas besoin de nous donner des explications. Nos parents nous ont élevés et nous ont éduqués dans ce sens.
Charles-Léon Ungemar, c'est une sorte de self-made man, hein, d'homme nouveau. Il hérite très tôt de ses parents, puisqu'ils sont morts jeunes. Et il a fait de ce tout petit capital, on peut dire même une très grosse entreprise de conserverie, une société d'ailleurs qui est devenue société par action. Et il va donc accumuler évidemment beaucoup d'argent et utiliser aussi cet argent pour développer des activités de type philanthropique ou paternaliste, comme on dit aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire des œuvres qu'on pourrait qualifier aussi d'œuvres patronales. Donc il va mettre notamment en place une cantine pour ses employés, une bibliothèque, et il aurait aussi mis en place une forme d'intéressement de ses salariés, ou certains d'entre eux, donc à sa propre entreprise.
On reprochait à Léon Ungemar ses profits de guerre. Pendant la guerre, on fait de l'argent, il a fait beaucoup d'argent. Et il y a eu un procès, il a fait appel, finalement il n'a pas été condamné.
Vous le considérez comme un profiteur de guerre ?
Quelque part oui, même s'il n'a pas été condamné, c'était son activité. C'était une grosse industrie alimentaire, c'était la plus importante de la ville. Pendant la guerre, il a augmenté considérablement le nombre d'employés. Il a profité de la guerre, mais c'était son métier, il vendait des conserves. Quand il y a une guerre, on vend beaucoup de conserves.
Alors, c'est pas tellement Charles-Léon Ungemar que son chargé d'affaires, Alfred Dachert, qui a tiré parti, en fait, de cette situation, donc, qui favorisait le commerce de la conserverie, tel qu'il était développé par la société Ungemar. Et Dachert était là au bon moment, dans les bonnes réunions, et il a saisi le coche au bon moment.
Alfred Dachert, l'homme, simple employé, s'est fait grâce aux bénéfices de l'entreprise Ungemar. Il mise sur la fondation pour vivre de sa rentabilité. Les locataires doivent être sélectionnés non seulement pour leur état de santé, mais aussi pour leur solvabilité. La fondation est l'œuvre de sa vie. Alfred Dacher est un eugéniste convaincu. Le darwinisme social est sa bible. Il a lu Francis Galton, l'inventeur du terme eugénisme, pour qui il faut préserver les qualités des familles de bonne lignée, afin de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. Le mot « race » est ici utilisé pour désigner des groupes sociaux au caractère héréditaire, distinct et intrinsèquement différent. Il faut sélectionner les meilleurs éléments de la société afin d'endiguer la menace de la décadence et de la dégénérescence venue des classes populaires. Il faut protéger la société et maintenir la paix sociale. Alfred Dacher compte par le moyen de l'habitation venir au secours de la sélection. De plus, il lui faut acquérir l'espoir raisonnable que face à l'effort financier consenti, il sera, d'une certaine manière, payé en retour.
On se rend compte, en lisant la documentation, que aussi bien Ungemar que son chargé d'affaires, Alfred Dachert, mais peut-être encore plus Ungemar, parce que son nom était en jeu, il se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose avec cet argent, enfin, en tout cas, transformer une partie de cet argent en œuvre, disons, pour le bien public. Et donc, le projet de la Cité Jardin arrive à point nommé, si on peut dire, pour laver, alors peut-être d'abord laver l'honneur des Ungemar, parce que c'est peut-être d'abord cela, et puis ensuite c'est un bon point pour Strasbourg, pour la firme et le nom d'Ungemar.
Quelle étonnante période pour les Strasbourgeois. Ils assistent en 1918 à des soviets, des conseils révolutionnaires de travailleurs et soldats allemands. Bien sûr, l'Alsace avait été incorporée à l'Empire allemand et voici qu'elle retourne à la France. Jacques Perotte, futur maire socialiste de Strasbourg, durant 16 ans, participe à la commission municipale présidée par un industriel, un certain monsieur Ungemark, bientôt remplacé par Perotte lui-même. En 1919, des élections municipales régulières offre à Jacques Perotte son fauteuil de maire. Il a donc été le dernier maire allemand de Strasbourg et le premier maire français.
Voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat privé-public. Jacques Perotte, héritier de la social-démocratie allemande, il donnait beaucoup d'autonomie aux villes. La question des villes est très importante. Pour beaucoup de réformateurs sociaux en ce début de XXe siècle, la ville est un lieu d'expérimentation. L'idée de laboratoire, elle est assez familière à l'époque. Et l'idée, c'est les problèmes sociaux se déroulent dans la ville et il faut essayer de trouver dans la ville des solutions d'expérimentation, éventuellement locale, en tout cas innovatrice, pour essayer de régler la question sociale. Jacques Perotte est donc l'héritier de cette social-démocratie allemande qui a fait se développer Strasbourg. C'est un grand urbaniste, un maire bâtisseur et un maire qui développe également le logement social. C'est par ailleurs un élu, et donc comme beaucoup d'élus, il cherche à se faire réélire le plus régulièrement possible. Et donc la politique de logement social qu'il développe a aussi pour but de viser des couches sociales qui vont lui apporter des voix. Et donc il conçoit une politique de logement social très stratifiée, qui va de logements destinés aux plus modestes, jusqu'à cette petite classe moyenne qu'on va retrouver dans la cité Jardin Ungemar. Au fond, pour lui, la cité Jardin Ungemar, c'est d'une certaine manière le joyau d'un portefeuille de logement social qui permet de baliser toute une partie du corps social.
Jean-Claude Richez, pourquoi est-ce qu'un maire socialiste comme Jacques Perotte trouve un intérêt dans cette cité-là? C'est-à-dire qu'il accepte de céder une partie d'un terrain qui appartient à la ville.
C'est, le nec plus ultra en termes de logement populaire, mais c'est pas sans contrepartie qu'il accorde et qu'il met à la disposition d'un patron cette parcelle. C'est certainement, puis en même temps, de façon générale, Perotte cherche une alliance avec le patronat lorsqu'il est élu maire. C'est pas Perotte qui impose ses critères, mais il partage aussi cet idéal eugéniste quelque part, même si c'est moins radical que le programme mis en œuvre par Ungemar et surtout par le président, plus exactement le vice-président Dachert, Alfred Dachert.
Cet eugénisme, cette culture eugéniste qui est partagée aussi par les milieux socialistes, il s'agit donc de créer des conditions de vie qui vont améliorer l'existence des travailleurs.
Ça. Oui, c'est exactement l'objectif du programme de Perotte. Même Cellier, par exemple, qui est le grand président du Conseil général de la Seine, qui est à l'origine des grandes cités ouvrières parisiennes, et dans une logique eugéniste et, disons, sociale.
L'idée de l'eugénisme, c'est de s'intéresser aux conditions qui vont permettre l'amélioration de la race. lorsque l'on considère même les propos de Cellier, qui était celui qui a mis en œuvre le projet des cités jardins dans le département de la Seine, l'amélioration de la race est un terme qui revient et qui l'intéresse beaucoup dans la mise en œuvre de la politique du logement. Je pense que ce qui peut choquer à Ungemar, c'est la manière dont la sélection des habitants a reposé sur un système de quantification chiffrée, c'est-à-dire qu'on leur attribuait des points. Et c'est ce processus de quantification qui pourtant a une histoire et s'inscrit dans une généalogie de la réforme sociale, mais cette quantification appliquée à cette fécondité choque celui qui s'intéresse à cette cité et choque particulièrement aujourd'hui.
Cette cité-jardin s'inscrit, vous nous dites, dans un mouvement plus général, plus vaste de diagnostic social, d'expertise, qui porte donc sur des groupes sociaux, sur les humains. Est-ce que c'est une sorte de laboratoire à ciel ouvert ?
Pour arriver à réformer la société, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut donc mettre en place une série d'enquêtes. Ce décryptage de la réalité sociale est quelque chose qui a été mis en œuvre dans la réforme sociale et plus spécifiquement à Strasbourg. Le projet réformateur est très inspiré par les théories de Le Play, ingénieur, qui, dans son ouvrage sur les ouvriers européens, tente de mettre en place des statistiques, des enquêtes pour comprendre l'organisation familiale. Cela conduit à une sorte d'anthropologisation du monde ouvrier, pour reprendre les termes d'un sociologue, Christian Topalov, qui a une formule éloquente qui dit que pour dompter l'ouvrier, il faut le dire. Il faut dire l'ouvrier pour le dompter. Donc c'est à travers l'étude du cadre de vie, les enquêtes, les quantifications, les observations de terrain, qu'on va observer cet ouvrier, regarder ses modes de vie.
Pour obtenir les meilleurs éléments, il faut chasser les indésirables, les familles sans ressources, malades, ou qui ne se conforme pas à l'idéal d'Alfred Dacher. Avoir des enfants vaut 20 points, l'âge de la mère, du père, la durée de l'union compte également. Nous ne connaissons pas le mode de calcul eugénésique et la grille d'analyse précise concernant l'état de santé des familles, mais il nous reste des courriers comme celui-ci. Mai 1928. Monsieur le maire, une de nos grandes maisons est vacante. La famille qui nous semble la mieux désignée pour l'occuper est l'agent de police, Eugène. Ayant 7 enfants, il vit dans un logement insalubre. Score propreté, 7. Score eugénésique, 47. Veuillez, monsieur le maire, recevoir nos salutations distinguées.
Dans une lettre de 1939 qu'il adresse à une demoiselle curieuse de connaître la nature de la cité-jardin Ungemar, le président de la fondation lui répond que sa cité-jardin n'est pas une cité ouvrière, à proprement parler, mais une cité qui a des visées eugéniques, au pluriel, et dont les habitants sont sélectionnés selon un principe de triage. Alors, bien entendu, celui qui pour la première fois lit ses archives est très étonné par le vocabulaire employé, triage et visée eugénique.
Quand ce mot eugéniste est apparu, du fait...
Expliquez-nous encore, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais c'était avant qu'on arrive, c'était dans les années 30 ou 25, là, quand
oui, M. Ungemart...
C'était un peu la tendance allemande.
Hein ? C'est ça ?
C'est ça, la tendance allemande. De l'autre côté, il voulait des blonds aux yeux bleus dans le quartier.
Ah, d'accord, gros, oh mon Dieu, ça. Oulala.
Peut-être pas nous. Moi, on a aménagé en 55. Il n'y avait pas ça. C'était bien avant, je pense, dans les années 30.
J'ai pas eu ce sentiment d'avoir ressenti...
C'est ce que je disais, nous, on n'a rien ressenti de tout ça.
Dans le quartier, du moins.
Mais je dis, vous êtes blonde toutes les deux aux yeux bleus.
On était... Ah oui, ah bah ça, plus blonde que ça, on ne pouvait pas être. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça, donc on ne m'en a pas parlé. Ah, oui, c'était peut-être quelque chose dont on ne voulait pas parler, hein,
oui,
peut-être
après,
aussi.
Oui,
hein,
certainement, puisque, les plus âgés n'en parlaient pas.
Vous, enfant, Louis Schalk, vous, le mot eugénisme, vous n'en aviez jamais entendu parler.
Non, En tant qu'enfant ou adolescent, non. On savait qu'il y avait des règles d'accession, qu'il fallait effectivement, je veux dire, 3 enfants, etc. Mais ça n'allait pas plus loin que ça, en fait.
Votre père a pu bénéficier de cette maison. Ce qu'il vous a raconté, comment est-ce qu'il avait pu bénéficier de cette maison ?
Il est rentré dans la cité dans les années 34-35 et il avait déjà 3 enfants. Donc il correspondait aux critères qui effectivement étaient en vigueur à l'époque. Et le critère principal, c'était effectivement d'avoir ou de s'engager à avoir 3 enfants au moins, que la femme ne travaille pas, et de respecter les 356 règles qui étaient dans le règlement.
Combien ?
356.
Et oui, un règlement long comme le bras pour des habitants modèles et malléables. À suivre, pourquoi les locataires ont-ils accepté ces conditions d'entrée, mais aussi de se conformer à ce code de bonne conduite de la cité jardin Ungemar.
This is the power of suggestion.
C'était le premier épisode, l'eugénisme à la française, une cité presque parfaite.
It is a psychological technique whereby you...
Avec Jean-Claude Richet, historien, Elsa Vonneau, historienne, Catherine Maurer, historienne, les anciens habitants de la cité, Colette Nass et Martine Bergmiller et Louis Schalke. Un grand merci à Christiane Gross. Prise de son, Gilles Gallinaro, Antoine Espel. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Julie Bérissi. À venir, le second épisode, pour le bien de tous.
How do you feel?
Fine, thank you.
Well, thank you, young lady. We'll get back to removing the needles in just a few moments. This is the power of suggestion. How do you feel? How do you feel?